Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Début des débats au Parlement au sujet de la réforme des retraites. Outre l'âge pivot qui sera de nouveau en débat, le projet arrive devant les députés avec un certain nombre d'inconnus.
Oui, trois principalement. Les critères de pénibilité d'abord, en négociation. Le financement de la remise à l'équilibre du système d'ici 2022, également en négociation. Et puis la valeur du point. La semaine dernière, le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski demandait à l'INSEE de créer un nouvel indice de référence sur lequel baser le calcul de son évolution, calcul plus avantageux, assurait-il, que le système actuel, mais en tout cas contesté par un comité de mobilisation d'une cinquantaine de statisticiens de l'INSEE. N'en reste pas moins que cette cinquième réforme en moins de 30 ans était censée assurer, comme les quatre précédentes, l'équilibre financier, alors que les conditions démographiques se durcissent avec le vieillissement et il y aura forcément des perdants, mais tout dépend la manière, explique Didier Blanchet, économiste à l'INSEE et directeur, ou plutôt président du comité de suivi des retraites.
Il faut rappeler le point de départ. Hein, quand on a commencé à réformer le système des retraites, les dépenses de retraite, c'était à peu près 11,5 de PIB. Et si on n'avait rien fait, elles seraient montées à 19-20%. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé avec les réformes passées à un mix où elles se stabiliseraient à peu près à 14%. Et puis le reste devait être géré par un décalage de l'âge de la retraite. Si on avait fait que des mesures d'âge dès le départ, il aurait fallu monter à 69-70 ans. Donc avoir géré ça avec un mix où c'est 64 ans pour l'âge de la retraite, plus un décrochement au niveau de vie relative des retraités, plus une dépense de retraite qu'on a laissé monter jusqu'à 14 points de PIB, ça paraît un compromis qui était quand même plus réaliste. Donc on a généré dans le système une dépendance à la croissance. Ça alimente par exemple le fait que les projections du corps soient sans arrêt un peu pas forcément validées par les évolutions futures. Ça tient à ça, c'est le fait que la croissance n'est pas celle qu'on avait attendue. Sur l'argument que le revenu moyen, c'est justement une moyenne donc qui cache plein de disparités, en fait, l'inflation, c'est pareil. Alors indexé sur les salaires, c'est plus généreux a priori. Le problème, c'est que si vous voulez faire ça en enveloppe constante, il faut que ce soit compensé par d'autres mécanismes d'ajustement.
Ces mécanismes d'ajustement, c'est ce sur quoi se concentre en ce moment le gouvernement.
Oui, là, pour l'ensemble du système, une série d'amendements, par exemple, proposés vendredi concernant les femmes dans le futur système, des garanties sur la majoration des droits familiaux en cas d'enfant ou cette fameuse pension de réversion en cas de décès d'un conjoint. Reste aussi, donc je le disais, les négociations sur la pénibilité. Des marcheurs se plaignaient la semaine dernière de leur peu de progrès. Se dessinerait en tout cas, en somme, un système plus semblable, dit Didier Blanchet, à celui des années 80-90, les régimes spéciaux en moins, et plus dépendant de l'augmentation des salaires que de la croissance elle-même, à savoir quel est le plus sûr.
On passe aux brèves et les hésitations de la croissance, on en parlait. Elle pourrait conduire l'Union européenne à réviser sa fameuse règle d'or budgétaire.
Oui, réunion des ministres de l'Eurogroupe cet après-midi à Bruxelles au sujet de cette règle de neutralité budgétaire qui impose aux États un déficit et une dette maximum de respectivement 3% et 60% du PIB. Elle pourrait donc être modifiée, laisse entendre un document obtenu par Reuters, afin de générer une posture assurant plus de soutien à l'échelle agrégée, comprenez favoriser la relance alors que les craintes de croissance faible, voire de récession augmentent dans certains pays européens, notamment l'Allemagne, on le voyait vendredi, pourtant farouche protectrice de cette règle d'or ces dernières années.
Autre contre-pied pour l'Union européenne, la fusion annoncée entre les entreprises ferroviaires françaises Alstom et le canadien Bombardier.
Oui, un communiqué qui confirme aujourd'hui les rumeurs de ces derniers jours de potentielle acquisition de Bombardier Transport par Alstom pour à peu près la valeur de son chiffre d'affaires l'année dernière, 7 milliards d'euros. Ironie de l'affaire sur le plan européen, le groupe deviendrait un des champions capables de concurrencer le chinois géant CRCC Corp Ltd qui gagne des marchés partout, alors même que l'Union européenne avait refusé, on s'en rappelle l'année dernière, la fusion entre Alstom et Siemens. Et puis pour les relations franco-canadiennes, une affaire intéressante ou embarrassante, alors qu'Airbus avait acquis il y a un peu plus d'un an la branche aviation de Bombardier.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'Écho est disponible à la réécoute sur franceculture.fr et sur toutes les applications de podcast. À demain.